C'est bon? Je vais vous présenter en effet l'anthropologie de René Girard, qui se définissait lui-même. Il est assez inclassable, comme vous allez le voir, puisqu'il a, il a touché à toutes les disciplines. Il est parti de la littérature. Mais il a vraiment une vocation d'anthropologue. J'aurais voulu d'ailleurs mettre le Que sais-je dans la série anthropologie, mais ils ont voulu le mettre avec les philosophes parce que on ne s'est pas classé, on les met toujours là, philosophes. Et en réalité, il est anthropologue depuis le départ et il se définissait donc comme l'anthropologue de la violence et de la religion. Alors que les religions soient violentes, c'est incontestable. La plupart des anthropologues du 19e et du 20e siècle ont considéré que la religion était source de violence. Enfin, c'est l'héritage de la philosophie des Lumières, et que si les religions disparaissaient, bien la violence aussi, en tout cas, s'atténuerait considérablement, puisque c'est des superstitions, de l'ignorance. Des peurs que nous inspire le monde quand on n'arrive pas à le connaître, qui engendrent les religions qui elles-mêmes sont en général violentes ou en tout cas justifient un certain nombre de violences. Par exemple, selon l'adage que l'excellence de la fin justifie les moyens, il est clair que les idéologies séculières qui ont succéder à la religion en Occident, c'est-à-dire les totalitarismes du XXe siècle, ont été extrêmement violents, ont fait des millions de morts, mais on peut un peu arguer que finalement, ils se sont comportés, ces idéologies se sont présentées comme des religions pour leurs partisans. Finalement, c'est le côté religieux de ces idéologies qui les a fait basculer dans la violence. René Girard, je vais vous donner quelques éléments de biographie. René Girard a pris les choses à l'envers, comme vous allez le voir, ça va être démontré. Il n'est pas parti de la religion pour découvrir que la violence était un moyen au service de la religion. Il est parti plutôt de la violence, c'est-à-dire de la nature humaine. En réalité, c'est cette nature de l'homme qui l'a intéressé depuis le départ, puisqu'il a commencé son anthropologie par la découverte dans les grands romans du 19e siècle, grands romans européens, ça va de Cervantes à Dostoïevski, à Proust. Il a découvert la nature du désir humain. On a confondu un peu ce qu'il a découvert avec Freud, mais ça, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Ce qui est comparable à Freud, c'est qu'il a déconstruit, c'est le mot à la mode, le sujet. En réalité, l'idéologie du 19e, 20e siècle, l'idéologie allemande, fait beaucoup confiance au sujet humain. Elle lui donne beaucoup d'autonomie. Et d'ailleurs, elle lui promet, quand il sera délivré justement de toutes les superstitions et ignorances qui l'accablent, et les maux qui l'accablent, elle lui promet une autonomie bienheureuse. Freud a découvert l'inconscient. Enfin, il y a ce qu'on appelait les philosophes du soupçon, Nietzsche, Marx et Freud, ont déconstruit cette idée d'un sujet libre et autonome. Mais Girard a été encore plus loin. Il a découvert c'est à l'aide de ses romanciers que le désir, ce qui nous appartient normalement en propre, qui nous est le plus personnel, eh bien le désir humain est imité. En réalité, nous ne désirons pas spontanément les objets auxquels nous portons avec passion ou tous les jours. Nous imitons les autres. Nous avons besoin pour fixer notre désir sur un objet, de regarder un modèle et au fond, nous désirons les objets qui sont désirés par nos modèles. C'est évident pour le petit enfant qui a comme modèle ses parents et pour finalement le citoyen qui a comme modèle, on va dire, la doxa sociale, enfin, qui se conforme, c'est évident pour les publicistes. La publicité est forgée sur cette idée qu'en présentant un objet désiré ou possédé par quelqu'un de prestigieux, eh bien, on suscite chez le spectateur, on suscite ce désir par imitation. Alors ça, c'est pour ça que la théorie de Girard ou l'hypothèse de Girard, puisqu'on va se placer sur le plan scientifique, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse dont il demande qu'on vérifie l'efficacité explicative, la puissance d'intelligibilité. Cette hypothèse, ça s'appelle la théorie mimétique, parce que le point de départ, c'est le désir mimétique. Et alors, deux mots pour le situer. René Girard est né en 23 et en 1923 et est mort en 2015, quelques temps, une semaine avant le Bataclan. Il a vécu effectivement la plupart de sa vie. Il est parti de France en 1947 et il a vécu toute sa vie professionnelle aux États-Unis. Dans des universités. Il est parti comme lecteur et il est fini comme professeur, full professeur à Stanford, où il est mort comme professeur émérite. Ce qui est intéressant dans sa biographie, c'est justement cet éloignement, cette double culture. Et cet éloignement de la France qui peut expliquer, on en reparlera peut-être dans la discussion, que la plupart d'entre vous, je ne peux pas vous demander puisque je ne suis pas en présence, si vous connaissez René Girard, mais la plupart des gens ne le connaissent pas, n'ont pas la moindre idée de son importance, même si de plus en plus on utilise ces concepts, on se sert de cette notion de rivalité mimétique, mais souvent sans nommer son auteur. Je crois que cet éloignement, parce qu'il est beaucoup plus connu dans les pays anglo-saxons, mais il y a une autre raison que vous allez découvrir pendant que je vous exposerai sa pensée, qui fait qu'il a été plutôt ostracisé en France, c'est qu'il s'est intéressé non seulement à la littérature et a découvert qu'il y avait plus de vérité sur le désir chez Dostoïevski ou chez Proust que chez Freud ou chez les spécialistes des sciences humaines. Mais c'est aussi qu'il s'est intéressé de très près et assez tôt au phénomène religieux, bien sûr, puisqu'il est devenu anthropologue, et en particulier à la Bible. Il a fait une lecture anthropologique de la Bible, et comme vous le verrez, il a brisé un certain nombre de tabous, puisque l'anthropologie dont il est le successeur et dont il a essayé de compléter les résultats, dont il a fait une magnifique synthèse d'ailleurs, l'anthropologie surtout anglaise, celle de Durkheim, etc., était farouchement antichrétienne. Bon, alors donc nous avons un électron libre, parce qu'il est difficile à définir, qui s'est intéressé à la littérature parce que ses cours devaient porter sur la littérature au départ, et qui, parce qu'il avait un génie spécial, un petit peu comme Darwin, qui a découvert la sélection, l'évolution et les sélections à partir de son observation de ce que faisaient les éleveurs anglais. Il a eu un génie particulier pour mettre ensemble, comparer, des choses qu'en général on ne compare pas. La plupart, surtout à l'époque, c'était l'époque du structuralisme, on ne voyait que des différences. Et lui, il a essayé au contraire de montrer ce qu'il y avait de commun dans Cervantes et dans Dostoïevski, enfin, ce que ces auteurs avaient découvert et qu'on pouvait mettre en commun, même si le fait qu'ils aient fait leur découverte à des époques différentes modifie, parce que effectivement Girard a une formation d'historien et son désir mimétique n'a pas la même forme au XVIe siècle et aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont découvert, en effet, c'est ce caractère très très mimétique de nos désirs. Alors, sur le plan, on va dire, social, il est évident, d'ailleurs, on ne s'est jamais tellement intéressé, on cite quelquefois Gustave Le Bon, mais enfin, on ne s'est jamais tellement intéressé à l'imitation. Sur le plan social, limitations sur le plan éducatif, sur le plan de la transmission, les limitations, est effectivement une faculté totalement indispensable. Nous apprenons tout, nous les humains, on a très peu d'instinct, enfin, on nous apprenons tout par imitation. Donc, il est évident que l'imitation nous socialise. Mais ce n'est pas à cet aspect-là de l'imitation, bien sûr, que Girard s'est intéressé. Il a découvert, et toujours dans cette lecture des romans, que l'imitation n'avait pas qu'un caractère socialisant, donc bénéfique, qu'elle avait aussi un caractère très déstabilisant, qu'elle nous entraînait dans des rivalités et même dans des violences, dans la mesure où, et ça on peut le comprendre, que si nous imitons non des représentations, mais des désirs, et si l'objet de ce désir ne se trouve pas partageable, les tragédies, les mythes grecs ne racontent que ça, eh bien, on entre en rivalité. Il se trouve que les Troyens et les Achéens se sont fait une guerre de 10 ans pour la belle Hélène, parce qu'on ne pouvait pas partager Hélène. Donc, le désir est à la fois, le désir mimétique est à la fois un facteur socialisant, puisque en s'attachant aux mêmes objets que les autres, en les imitant, on socialise, mais il est aussi désocialisant, puisque en imitant des désirs, nous nous trouvons en rivalité. Ça a été très, très bien exprimé par le théâtre de Shakespeare en particulier, que Girard a découvert plus tard et dans lequel il a dit que toute la théorie mimétique y était présente dans le théâtre de Shakespeare, aussi bien dans ses comédies que dans ses tragédies. Alors, si on reste 2 secondes sur le plan du roman, ce qu'il a dit, ce qu'il a apporté, alors quand même du point de vue du concept de la théorie, c'est déjà une différence entre 2 types d'imitation. L'imitation qui porte sur les modèles un peu transcendants, comme l'enfant imite ses parents et comme nous imitons probablement des héros, enfin ou des stars que nous idéalisons. Et auxquels, au fond, nous cherchons plus ou moins à ressembler, ou que nous admirons, mais sans qu'il y ait la moindre possibilité de rivalité, parce que ces modèles appartiennent à une sphère autre que la nôtre. Ça, c'est la médiation externe. La médiation interne, elle consiste à avoir comme modèle le voisin de palier. Alors, les sociétés aristocratiques avaient effectivement des modèles externes, puisqu'il y avait une forte hiérarchie sociale et que, par exemple, les courtisans de Louis XIV étaient certainement très imitatifs, mais ne pouvaient pas entrer en compétition avec le roi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les avait assignés à la cour de Versailles en tant que courtisans, parce qu'il avait de mauvais souvenirs de la Fronde. Par contre, dès qu'on entre dans l'ère démocratique, bien analysée par Tocqueville, c'est-à-dire dès qu'il n'y a plus, qu'on supprime, si vous voulez, les avantages ou les privilèges de quelques-uns et que tout le monde se trouve à égalité, la formule de Tocqueville, c'est ils ont remplacé les privilèges de quelques-uns par la concurrence de tous. On est tous à égalité, donc on est tous concurrents. Je souligne, ça vous vient à l'esprit tout de suite, que la concurrence est très encouragée. La saine émulation, etc., c'est très encouragé dans le monde moderne. Mais les romanciers décrivent du point de vue existentiel, c'est-à-dire qu'on se met toujours à la place des héros de romans qu'on lit. Ils décrivent, comment dire, un petit enfer intérieur, parce qu'il est assez difficile d'avouer son imitation. Tout le monde prétend au contraire être autonome, mais comme on ne l'est pas et qu'on sent qu'on ne l'est pas et qu'on pense que les autres le sont, on est toujours dans cette position désagréable de l'envieux qui ne peut pas avouer son infériorité, mais qui la ressent d'une manière douloureuse. Au fond, c'est ça le ressentiment. C'est une espèce de mépris de soi, parce qu'on n'est pas autonome, on sait très bien qu'on n'est pas autonome. De survalorisation des autres, chez qui on croit que cette promesse moderne de l'autonomie a été reçue et remplie, Et on est donc à la fois dans la haine de soi et dans la haine des autres. Enfin, ça, il peut y avoir une escalade. En tout cas, la médiation interne n'est pas du tout confortable. La médiation interne, en plus, elle peut se compliquer par la médiation double. Parce que si vous êtes vraiment à égalité avec la personne que vous imitez, il est très possible, il est même probable qu'elle va vous imiter à son tour. Et que donc, vous serez en quelque sorte à la fois obstacle et modèle l'un pour l'autre. C'est peut-être en ce sens qu'on peut dire que l'enfer, c'est les autres, hein, dans la mesure où les autres sont les obstacles à mes désirs, mais parce que justement, ils possèdent ou désirent ou pourraient posséder les objets qu'ils me font désirer. C'est un peu compliqué. En réalité, le désir, l'imitation est une chose très simple. Mais comme vous allez le voir, ça oblige à avoir une logique qui n'est pas binaire, qui est circulaire. Parce que quand vous imitez quelqu'un qui vous imite, on n'est plus dans les choses très simples. Ça devient un peu compliqué. Surtout quand c'est intériorisé. Alors il y a tout un pan de la culture, de la théorie girardienne qui a été exploité par les psychiatres. Parce que finalement, les névroses, les psychoses, les hallucinations du double, etc., sont nourries de cette tragédie qui consiste pour l'homme à n'être pas maître de ses désirs et à dépendre pour les satisfaire d'autrui. C'est d'autant plus grave parce qu'il expérimente souvent que quand ça marche, c'est-à-dire quand il réussit à obtenir l'objet qu'il désire, eh bien, il le désire beaucoup moins, il ne le désire plus, parce que finalement, si c'était si facile, si le modèle auquel il aspirait à ressembler n'est que ça, vous voyez, ce n'est que ça, etc. Donc le désir ou bien échoue et est torturant, le désir, quand il échoue, peut se transformer en passion ou en obsession, ou bien réussit, il est déçu. Donc on a. Entre, au fond, l'individu est très décrié dans la théorie mémétique. L'individu, au fond, c'est un être qui manque d'être. Et d'ailleurs, le désir que je vous appelle mimétique, parce que je prends la théorie de Girard dans son ensemble, dans son premier livre sur les romans, il s'appelle simplement métaphysique ou triangulaire. Triangulaire parce qu'il y a cet angle un peu mort qu'on ne veut pas voir, qui est le modèle, c'est-à-dire qu'on se dirige vers un objet parce qu'on regarde le modèle, donc le désir n'est pas linéaire, mais triangulaire, et métaphysique parce que finalement, ce qu'il révèle, c'est un manque d'être. Un être dont les modèles peut-être nous paraissent pourvus, mais dont nous ressentons l'insuffisance en désirant. Alors, je vais vous donner un exemple. Il faut que je me dépêche parce que la théorie mimétique, c'est pas sur le désir qu'elle porte, c'est sur le désir qu'elle porte d'abord pour comprendre ce que c'est que la violence, mais c'est sur la religion. Je me dépêche, mais je suis quand même, en donnant cet exemple, dans mon sujet, violence et religion, j'aurais voulu vous montrer par cet exemple que la médiation externe et la médiation interne s'incarnent dans des situations qui sont quasi religieuses, et en particulier dans la description que fait Girard des mondes proustiens. Si vous avez lu Proust, il y a deux mondes, le monde de l'enfance, le monde de Combray, et puis le monde ensuite, ce qu'on appelle le monde d'ailleurs, le monde des mondains, le monde des salons. En particulier le salon Verdurin que fréquentent les snobs. Eh bien, dans le monde de Combray, qui est un monde religieux, un monde clos, fermé, il en fait presque une étude ethnologique, Proust, la médiation est externe, c'est-à-dire que le monde de l'enfance est protégé par les adultes, par la grand-mère, etc. Et les étrangers, on est toujours affolé quand on voit un chien qu'on ne connaît pas, etc., dans la rue. Mais les étrangers, ceux qui ne savent pas que le samedi, on a avancé ou reculé le déjeuner, on s'en moque. Mais il y a, au fond, une espèce de joie, d'harmonie, Parce que la transcendance est véritable. Enfin, il y a une véritable transcendance, si vous voulez. Ils sont tous réunis dans cette famille, comme le clocher va vers le ciel à partir du village de Combray. Tandis que dans le salon Verdurin, dans le monde, on a affaire à quelque chose qui est aussi, en principe, une unité. Tous les gens qui participent au salon font unité. Mais on s'en rend bien compte, ils le font d'une manière haineuse. Alors là, ils ont aussi une religion, c'est l'art. Madame Verdurin entre dans des transes quand elle entend, etc., et quand elle regarde des choses qui sont belles. Mais très, très, très nettement, cette unité, elle se fait sur le dos des autres. Alors, en particulier, l'unité du salon Verdurin, elle tient à la haine que ce salon voue au salon Guermantes. Et à l'intérieur même du salon, et là, il y a une citation, je vais la retrouver là, de Proust, qui est très révélatrice déjà du fait constaté par Girard et revendiqué par lui que le romancier, le grand romancier, est également un ethnologue, un sociologue, est également quelqu'un qui apporte des vérités sur l'homme. Dans le salon Verdurin, alors c'est la transformation du malheureux Sagnette en bouc émissaire. Le malheureux Sagnette fait partie du salon, mais il est considéré comme quand même un peu maladroit, il bégaye, etc. Et alors là, il se moque. Voilà la description que fait Proust, et ça va nous introduire à la violence et le sacré. De ce qui se passe dans ce salon. Ils avaient l'air, dit-il, à propos de tous ces mondains qui se mettent à rire d'une manière méchante du malheureux Sagnette, ils avaient l'air d'une bande d'anthropophages chez qui une blessure faite à un homme blanc avait réveillé le goût du sang. Cet instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules, et tout le monde rit de quelqu'un dont on doit se moquer, quitte à le vénérer 10 ans plus tard dans un cercle où il est admiré. C'est de la même façon que le peuple chasse ou acclame les rois. Récemment, en regardant les images de Giscard d'Estaing, j'ai pensé à son entrée à l'Élysée à pied, acclamé, et à sa sortie à pied de même de l'Élysée, sifflé par la foule. Donc, en examinant le désir sous l'angle un petit peu sombre de la rivalité souterraine hein, chez ces gens-là, mais très active qu'ils suscitent chez les hommes. Enfin, en examinant donc le côté sombre de la rivalité, on peut arriver assez facilement à comprendre ce que c'est que la violence, qui au fond n'est pas substantielle. Elle relève pas de. Alors évidemment, pour Girard, elle relève pas d'un instinct. On ne peut pas dire l'homme est agressé. Puis au fond, ramener des choses à l'instinct, c'est peut-être désigner le problème, mais ce n'est pas le résoudre. On pourrait dire, par exemple, comme Kant, que l'homme a une insociable sociabilité, c'est-à-dire qu'il est à la fois sociable, puisqu'il a besoin des autres, et qu'en même temps, il ne l'est pas, puisqu'il se dispute avec les autres, il tire la couverture à soi, il considère les autres comme des rivaux. Mais mettre dans l'homme deux instincts, un à la sociabilité qui en ferait un loup, l'homme est un loup pour l'homme, c'est pas, encore une fois, il y a là un problème, mais il n'y a pas de solution. Eh bien, je me semble que c'est pour ça que j'ai été très aimantée comme ça par la lecture de Girard, non seulement parce qu'il me faisait voir dans tous les romans que j'avais lus dans ma jeunesse des choses que je n'avais pas vues, et qui m'en montrait non seulement, c'était emballant de lire toutes ces histoires, mais en même temps c'était instructif, ça m'apprenait des choses sur moi-même, enfin sur l'homme en général. Et effectivement, il y a dans la théorie que je vais vous résumer de Girard, il y a une possibilité de dire quelque chose de vrai sur l'homme, qui est occulté par des tas de préjugés, dont le préjugé anti-religieux, bien sûr, qui consiste à faire de la religion une superstructure, et dont aussi le préjugé de l'individualisme, qui est d'ailleurs contemporain lui-même, qui consiste à faire de l'homme un être autonome, qui aurait peut-être, même s'il ne sait pas ce qu'il désire, son inconscient le saurait pour lui, enfin qui serait la source de ses désirs. Alors, le passage de, ben, est tout trouvé là, puisque vous avez le passage entre la lecture des romans et l'anthropologie, elle s'est faite à travers, d'une part, un très gros travail que Girard a fait. Il a lu tous les anthropologues qu'il a pu lire, c'est-à-dire tous ceux qui, heureusement, parce que ces sociétés qu'ils ont étudiées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, je crois qu'elles n'existent pratiquement plus, qui ont donc récolté les mythes, les rites, etc. C'est pas un anthropologue de terrain, Girard, hein, c'est comme Mauss, c'est un anthropologue en fauteuil. Il a lu les anthropologues. Et puis aussi les tragédies grecques. Alors, que nous apprend l'anthropologie? Elle nous apprend que les sociétés en général archaïques sont toutes religieuses. Durkheim avait déjà fait l'hypothèse que la religion, c'est la transcendance sociale. Que donc toutes ces sociétés sont religieuses et que, alors comment est-ce qu'on va définir la religion là? Eh bien, pas par des croyances. Girard est entré dans les religions, comme les anthropologues, par des faits, c'est-à-dire par des rites. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils se situent, etc. Et le rite, donc une religion, c'est un ensemble de rituels. C'est un ensemble aussi d'interdits, de règles, etc., de vie en commun. Et puis, ce sont des mythes. Alors, avant d'aller voir ce qu'il y a dans les mythes, ce qui a intéressé Girard en premier, c'est d'ailleurs cette notion que je vais garder comme fil directeur de mon exposé, c'est la notion de sacrifice. À peu près dans toutes les sociétés, il s'est demandé même, et je crois que si certaines sociétés ne pratiquent pas le sacrifice, elles ont des rituels qui sont dérivés du sacrifice. Enfin, pour Girard, c'est une espèce d'invariant culturel, si vous voulez. Le sacrifice est au cœur d'une société religieuse. Et qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Eh bien, c'est un meurtre en général, c'est un acte violent. Et en même temps, c'est une action qu'il faut absolument faire, c'est une action sainte. Elle a cette ambivalence, encore une fois, le mot d'ambivalence désigne le problème mais ne le résout pas, d'être une action sainte, obligatoire, et en même temps violente. Alors, les anthropologues qui ont précédé Girard font de la religion la matrice de la violence et du sacrifice. Au fond, ils font une offrande aux dieux. La religion, c'est une manière de se situer dans le monde et de situer le monde dans lequel on est par rapport à un arrière-monde, un au-delà du monde. Et on appellera donc sacré cet au-delà du monde et profane le monde dans lequel on est. On a des rapports avec le sacré. Et le sacré demande des sacrifices. D'ailleurs, sacrifice, ça veut dire faire sacré. Et donc, le sacrifice est une offrande que les croyances religieuses, qui sont tous des superstitions irrationnelles, etc., exigent. Et c'est pour ça que périodiquement, alors il y a des sociétés plus sacrificielles que d'autres, mais périodiquement, y compris dans la Bible, vous avez un certain nombre de sacrifices. Eh bien, il faut immoler des êtres humains. Puis peut-être par un adoucissement des mœurs des animaux qui les ont remplacés, mais qu'on humanise. Chaque fois qu'on les sacrifie, on les humanise. Parce que ce qui est très notable dans le sacrifice, c'est que la personne ou l'objet qu'on immole doit avoir un rapport avec le groupe. Alors, le sacrifice est une collectivité qui met au centre un bûcher, ou, enfin, comme vous voulez, enfin, un autel, où on va immoler une victime. La société est donc unanime pour participer, même si elle a quand même des prêtres qui, eux, parce qu'ils sont plus, ils se guérissent plus facilement des impuretés, peuvent aller jusqu'à la victime, parce que tout ça, c'est quand même faire, c'est quand même sanglant. Alors, au fond, le sang pur de la victime doit, oui, le sang pur de la victime doit purifier la société. Il y a une espèce de le sacrifice est une espèce de catharsis. La tragédie aura cette même fonction chez Aristote d'être cathartique, ça veut dire de purifier. Pourquoi la théorie cathartique du théâtre tragique? Parce que les héros tragiques portent en quelque sorte le poids des fautes ou du public. Et donc, son châtiment est une espèce de projection et qui permet de se délivrer en quelque sorte de ses fautes. Voilà, donc le sacrifice est cathartique. Mais à la différence des anthropologues qui ont vu ça comme une offrande, Girard s'intéresse particulièrement au fait que la violence, et au fond, il dit on ne s'est pas assez occupé de la violence, on a fait de la violence un moyen d'arriver à des fins, c'est que la violence est première. Car en fond, si le sacrifice permet de purifier la communauté, c'est que justement cette communauté est violente. Et alors l'examen des sacrifices montre en effet que précédant ces sacrifices, il y a des simulacres de combat, il y a comme une espèce d'effervescence belliqueuse, et puis le sacrifice réunit tout le monde, et ensuite il y a un banquet où éventuellement on mange la victime. Donc si vous voulez, il y a ces trois moments dans le sacrifice. Le chaos, le désordre, la guerre, enfin une espèce de guerre intestine. Ensuite, le sacrifice, l'immolation de la victime et la réconciliation sous forme de rites aussi qui sont manger la victime, par exemple. Et en lisant les tragiques grecs, alors je me contentais d'Œdipe, il a retrouvé ces différents moments. Du sacrifice. Qu'est-ce que c'est là? Je vais vous raconter Œdipe Roi. Vous savez qu'Œdipe Œdipe Roi, c'est une pièce de Sophocle. Je ne raconte pas tout le mythe, parce que le mythe raconte ce qui s'est passé avant la naissance d'Œdipe. Œdipe Roi raconte simplement l'enquête que Œdipe, qui est devenu le roi de Thèbes, fait pour essayer de trouver le coupable de la peste qui règne sur la ville de Thèbes. On pense qu'il y a eu des transgressions qui ont fâché les dieux et on cherche le transgresseur. Et au bout de cette enquête, Œdipe est jugé coupable et les yeux crevés est expulsé de la cité et la cité retrouve l'ordre. Alors, pour la plupart des mythes, la peste est un, qui est très souvent dans les mythes, la peste, le déluge, etc. C'est un symbole, enfin c'est une métaphore du désordre. La peste, vous souvenez, La Fontaine, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est donc au fond la rivalité mimétique qui s'est propagée à la société tout entière, car rien n'est plus contagieux que la violence. Et au fond, toute société, à cause du désir mimétique, à cause d'ailleurs, évidemment, dans les sociétés archaïques, on n'est pas dans le désir triangulaire ou dans le désir métaphysique, on est vraiment dans le désir mimétique, c'est-à-dire de quelque chose, au fond, c'est de très, comment dire, physique, physiologique. Donc, un peu comme quelqu'un sourit quand il voit quelqu'un sourire et se met en colère quand il voit quelqu'un en colère. C'est une espèce de contagion physiologique et psychologique qui fait que la violence se propage partout et que la société risque d'exploser ou d'imploser, comme vous voulez, par la violence intestine. Au fond, c'est le pire danger pour une société, c'est la guerre civile. Et toutes les sociétés, pense Girard, ont eu ce problème à résoudre. C'est pourquoi M. Guézou a intitulé l'hypothèse mimétique La religion et la régulation de la violence. Parce que c'est ça l'hypothèse girardienne, c'est que la religion n'est pas ce qui produit la violence, mais ce qui essaie de la guérir, enfin, elle ne peut pas l'éradiquer, de la canaliser, de la réduire. Et au fond, le sacrifice est une violence économique au cours de laquelle on tue à la place, on substitue de la foule, de la collectivité, un être unique. Donc c'est une violence économique parce qu'au lieu de se tuer tous, on n'en tue qu'un seul. Et c'est une violence d'autant plus économique que, à l'issue de cette violence, la foule est déchargée de sa violence. C'est-à-dire, c'est ce que le côté cathartique. On tue quelqu'un à la place des autres et, du coup, la violence, pour un temps en tout cas, est expulsée. Alors, elle est expulsée comme Édipe. Édipe, c'est le violent qu'on va expulser. La thèse de Freud, c'est que nous sommes tous des Édipes, enfin, oui, voilà, l'individu, c'est Édipe. La thèse de Girard, c'est pas du tout ça. La thèse de Girard, c'est que, au fond, Freud a été lui aussi victime de cette expulsion de la violence. Là, il a cru finalement en la culpabilité d'Édipe. L'idée de Girard, et il dit au fond, c'est un peu l'idée de Sophocle, parce que c'est un lecteur de textes prodigieux, il a une façon de lire le texte qui fait ressortir des choses qu'on n'avait pas vues. C'est un peu l'idée de Sophocle, sauf que Sophocle ne peut pas contredire le mythe, alors il ne va pas jusqu'au bout. Mais c'est qu'Édipe est un bouc émissaire. En réalité, la peste, c'est la guerre civile. Enfin, les gens sont tous en train de s'entretuer. C'est une maladie mortelle qu'on peut considérer, si vous voulez, sous un angle comme notre virus, sous un angle médical, mais qu'on peut aussi considérer sous un angle social. Donc, c'est une maladie qui peut tuer tout le monde et dont on cherche la cause. Alors, ceux qui cherchent la cause, c'est les experts. Alors, il y a Tirésias, il y a Créon, il y a Édipe. Et en fait, Sophocle montre que la culpabilité n'est pas évidente tout de suite. Ils s'accusent mutuellement. Mais le fait est que ça tombe sur Édipe. Il y a quand même un côté aléatoire, hein. Enfin, pas tout à fait, parce que c'est le roi, etc. En tout cas, Édipe est expulsé en tant que parricide incestueux et les Thébains, eux, qui sont malades de la peste, se trouvent guéris. Alors, on a là, finalement, théâtralisé ce qui a pu se passer pour que les sociétés humaines, puisque les hommes sont hyper mimétiques et puis en général dénués de ce qu'on appelle les dominance patterns, des instincts régulateurs justement de la violence, qui n'ont pas d'instinct régulateur, parce que les animaux ne s'entretuent pas, les mâles dominants prennent les femelles et puis les autres s'en vont prendre autre chose. Enfin, les femelles que les mâles dominants ne veulent pas, il y a une espèce de hiérarchie. Bon, chez les hommes, qui sont toujours disponibles en plus. Sexuellement, il n'y a pas de régulation ni de la sexualité ni de la violence, donc il faut des institutions. Et alors, l'hypothèse que Girard fait à partir de tous ces rites et de tous ces mythes et de toutes ces tragédies qu'il lit, parce que je ne vous fais qu'un petit échantillon, je vous dis qu'un tout petit échantillon, c'est que les proto-humains, avant, enfin les grands singes qui étaient déjà hyper mimétiques avant. Au fond, avant que nous soyons hommes, eh bien, les hommes en voie d'hominisation ont connu ces chaos, ces désordres à l'intérieur d'un groupe et probablement qu'un certain nombre de ces groupes sont morts, enfin, se sont exterminés. Mais c'est l'hypothèse à la Darwin, ceux qui ont résisté l'ont fait à cause d'un mécanisme, on peut appeler ça un mécanisme puisque personne n'est responsable de ce qui s'est passé, et c'est un mécanisme qu'on peut très bien voir, mais par ses traces, évidemment, on ne peut pas y assister, par ce que font les rituels, c'est-à-dire un chaos, puis une victime, et ensuite la paix. Et le mécanisme du bouc émissaire, c'est au fond au paroxysme d'une violence où tous les hommes sont les mêmes, jumeaux de la violence, ils sont tous à égalité, ils sont tous en train de s'entretuer, mais au paroxysme de cette imitation, il y a une étincelle de hasard qui fait que, c'est comme une espèce oui, c'est chimique, qui fait que le tous contre tous est devenu tous contre un. Il faut donc imaginer que le rite du sacrifice est imité de quelque chose qui a eu lieu. Alors, c'est ça le premier tabou, évidemment, qu'en fera Girard, c'est d'imaginer un événement réel à l'origine de l'humain, de l'humanité. Autrement, Girard n'a jamais lu les textes, d'ailleurs, en les référant à d'autres textes. Ou, un texte, c'était le cas des romans, n'est intéressant que parce que la réalité qu'il porte en lui, on appelle aujourd'hui le référent. Il se réfère à quelque chose de réel. Eh bien, les rites imitent, et imitent violemment, la violence du rite du sacrifice est réelle, mais ils imitent un événement immémorial, mais qui a eu lieu, qui a forcément eu lieu, pour que l'humanité, en quelque sorte, survive à son hypermimétisme. Et c'est à la fois le mimétisme, le mal et le remède. Parce que c'est au fond parce que les hommes sont mimétiques qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble, mais c'est aussi parce qu'ils sont tellement mimétiques qu'ils ont pu se réconcilier sur cette victime unique. Et c'est ça le mécanisme du bouc émissaire. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le bouc émissaire du Lévitique, le rite du bouc émissaire. Le rite du Lévitique, c'est le grand prêtre qui, au moment de l'expiation, tue deux agneaux, un qui tue au temple et l'autre qui l'envoie dans le désert chargé de tous les péchés d'Israël. Parce que ça, c'est un rituel. Or, le mécanisme de la victime émissaire dont je vous parle, ce n'est pas un rituel, c'est un événement. Alors, ce n'est pas un événement unique comme le meurtre fondateur du père de la horde primitive chez Freud, si vous connaissez ça, mais ça s'est répété énormément de fois, et puis on se donne un temps de milliers, de dizaines de milliers d'années. Donc, au fond, sur le modèle un peu de la théorie de l'évolution de Darwin, Girard produit une théorie de l'évolution humaine, de l'évolution culturelle. Parce que finalement, le premier symbole culturel, c'est cette victime. Autour de cette victime, le silence se fait et tout le monde voit cet être qui signifie autre chose que ce qu'il est. Qui signifie, c'est un être mort, mais qui signifie la vie, la renaissance. C'est un être qui est n'importe lequel d'entre eux, je ne sais pas, probablement qu'au départ c'était aléatoire, mais cette victime, elle est substituée à tous les autres, mais en même temps qu'elle avait apporté la haine et la violence, elle la remporte avec elle. C'est-à-dire qu'après coup, après leur meurtre, les hominidés, les proto-humains, qui se sont réunis autour de cette victime, l'ont divinisé. Les dieux n'existent pas avant d'avoir été tués, écrit Girard. Vous avez là une théorie athée de la religion. Qu'est-ce que c'est que la religion? C'est un moyen que les hommes se sont donné un peu par nécessité et un peu par hasard, il y a le rôle du hasard et aussi du déterminisme, pour résoudre, en effet, pour réguler le problème de la violence. Parce qu'en se donnant des rituels au cours desquels ils vont répéter ce qui a marché une fois, c'est vrai que c'est en même temps qu'existait Platon, c'est-à-dire la philosophie, la science, etc., dans l'Athènes du 5e siècle, il existait un rite, le rite du pharmakos. Pharmakos, ça a donné pharmacie, mais ça veut dire poison et remède. Le pharmakos, c'était un pauvre gars élevé, en quelque sorte, nourri par la cité, pour être sacrifié quand il le fallait, à des dates fixes ou quand il y avait un peu de trouble. On se promenait, il était injurié, puis finalement on l'immolait, etc., en même temps que Platon. Donc, le rite du sacrificiel a existé dans des sociétés que nous estimons, que nous peut-être surestimons, et considérons comme la matrice même du rationalisme, de la civilisation. C'est en plus la chasse aux sorcières, qu'est-ce que c'était d'autre hein, que des chasses aux boucs émissaires Donc, et puis l'affaire Dreyfus, je veux dire, le bouc émissaire est quelque chose que, quand on entend le nom bouc émissaire, on sait que ça veut dire décharger sa violence sur quelqu'un qui est innocent. C'est-à-dire, au fond, c'est accuser quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre. Voilà ce que c'est un bouc émissaire. C'est quelqu'un qui sert d'exutoire à la violence d'un groupe et qui sert à unir ce groupe. Un petit peu comme Saniette était le bouc émissaire du Salon Verdurin, c'est un élément d'harmonie, si vous voulez. Donc, les sociétés harmonieuses ont des boucs émissaires. Alors, les boucs émissaires, alors, il faut quand même que je fasse une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Le bouc émissaire, c'est toujours les autres qui ont un bouc émissaire. On n'en a pas, nous. Le bouc émissaire, il est victime de la vindicte des autres, qui l'accusent, qui le prennent comme substitut de leur violence à eux. Mais son innocence, bien entendu, est totalement ignorée, méconnue. La méconnaissance est un concept très important chez Girard. Ça veut dire que tout ce temps qu'il y a eu des sacrifices, eh bien, ça marchait parce qu'on y croyait. On croyait vraiment que la victime pouvait en quelque sorte délivrer toute la communauté de sa violence. Et on y croyait d'autant plus que ça marchait. Alors ça marchait et donc on y croyait. Et du fait qu'on y croyait, ça marchait. Et c'est donc une espèce d'autosuggestion. Bon. Donc, les boucs émissaires sont dénoncés toujours chez les autres. Autrement dit, il n'y a que les autres qui ont des boucs émissaires. Nous avons des ennemis qui sont de vrais ennemis, qui nous veulent vraiment du mal. Tandis que les autres, eux, ils ont des boucs émissaires, c'est-à-dire des faux ennemis. Autrement dit, le bouc émissaire est un mécanisme qui ne marche que si on ne s'en rend pas compte, que si on est en quelque sorte innocent d'une certaine façon de le faire marcher. Et probablement que les anti-Dreyfusards étaient persuadé de la culpabilité de Dreyfus. Et seulement, il fallait seulement être de l'autre côté pour dire ils prennent Dreyfus comme bouc émissaire. Okay? Donc, le mécanisme du bouc émissaire, le mécanisme victimaire, a protégé pendant des milliers d'années la société humaine de la violence. Et si Girard est entré ensuite, il faut que je me dépêche, plus que 5 minutes pour le faire et c'est dommage. Si Girard est entré en fait ensuite dans la Bible, si de la violence et le sacré il est passé à ces choses cachées depuis la fondation du monde, eh bien c'est peut-être, vous pourriez même l'anticiper, parce que le Christ occupe exactement cette situation de victime émissaire. Vous avez quand même une société, la société sous le temps de Pilate, sous l'occupation romaine, vous avez une espèce d'effervescence politique et religieuse. Et puis le Christ qui est acclamé quand il arrive à Jérusalem et qui est finalement sacrifié, on peut le dire, par une foule en colère, par une foule qui le met à mort, même si c'est Pilate qui le décide, puisque c'était que seulement les Romains qui pouvaient appliquer la mort. Donc, ce que Girard, au fond, dit, et ça, c'est tout le reste de son œuvre sera une espèce la continuation de cette lecture de la Bible, c'est que la Bible, et ça commence déjà avec l'Ancien Testament, est une lecture anti-sacrificielle du religieux. Ça commence déjà avec Job, qui est accusé, puisqu'il est malheureux, etc., il est accusé par ses amis d'avoir offensé Dieu et qui résiste. Il dit non, et cette résistance de Job, dit Girard, c'est la différence avec Édipe. Édipe, au fond, accepte, il collabore en quelque sorte à cette unanimité violente qui permet de se débarrasser de la violence. Job ne coopère pas. Bon, vous avez aussi des textes absolument magnifiques dans la Bible, les chants du serviteur souffrant, etc. Mais tout cela prépare la révélation de l'innocence de la victime, ce qu'on appelle l'agneau de Dieu. Alors, Qu'est-ce qui se passe de spécial dans la crucifixion, dans la passion? Parce qu'au fond, ça pourrait être un mythe, ça pourrait être que, comment dire, un rite, ou pas un rituel, c'est pas un rituel, mais enfin, ça pourrait être un accident comme il y en a partout, comme il en arrive tout le temps, d'une foule en colère qui se défoule sur une victime, et puis cette victime est ensuite divinisée. Autrement dit, vous avez pratiquement les mêmes étapes que dans les sociétés archaïques pour faire un dieu. Moi, la différence des sociétés archaïques qui divinisent leur victime une fois qu'elle a été morte parce qu'ils pensent que c'est un dieu qui leur a apporté la violence et qui l'a remportée avec lui, là, il y a l'unanimité autour du Christ, même Pierre. Gérard tenait beaucoup au reniement de Pierre parce que le reniement de Pierre, c'est vraiment une expérience vraie de l'unanimité de la contagion de la foule. Pierre est dans la cour du grand prêtre, on lui demande s'il connaît cet homme, et il est dans ce moment de trouble, d'angoisse tel qu'il ne peut pas résister à la pression de la foule. Alors, une fois qu'il a renié le Christ, il se rend compte de ce qu'il a fait, mais il faut qu'il y ait unanimité pour que ça marche. Il n'y a pas unanimité dans l'histoire de la Passion, puisque après la résurrection, les apôtres, qui n'avaient rien compris pendant tout le temps de l'enseignement du Christ, reçoivent en quelque sorte cette lumière qu'on appelle l'Esprit Saint. Esprit Saint, le parakleitos, qui veut dire l'avocat de la défense des victimes. Et donc, raconte d'une façon d'ailleurs qui est très différente des mythes, parce que il y a dans la Bible une espèce de vérité existentielle. Ce sont des personnages vrais, des personnages humains, et raconte d'une manière très, très historique, très humaine. Les évangiles dits synoptiques racontent d'ailleurs les mêmes choses. Et ce récit, évidemment, complété par les actes des apôtres, ce récit de la Passion est la révélation de l'innocence de la victime. Et toutes les paroles de Jésus, y compris les paroles qu'il prononce en croix, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, personne ne sait. Encore une fois, ceux qui ont un bouc émissaire ne le savent pas. Et le mécanisme victimaire marche justement du fait de cette ignorance unanime. Toutes les paroles du Christ, y compris donc celles qu'il prononce en croix, sont des paroles qui révèlent l'innocence des victimes. Lui-même se situe à la lignée de tous ceux qui, depuis Abel, depuis le meurtre d'Abel, ont été les victimes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle l'ordre, on peut dire satanique, parce que Satan, si le paraclet, c'est l'esprit de la défense, enfin la défense des victimes, Satan, c'est l'accusateur, ça veut dire l'accusateur. Eh bien, il met au jour, il révèle, donc il détruit progressivement, parce que la chose n'est pas encore totalement détruite, mais enfin, il promeut la destruction progressive de l'ordre satanique, c'est-à-dire de cet ordre qui consiste c'est ce qu'on appelle un ordre violent, tous les ordres humains sont violents, qui consiste à réguler la violence en expulsant un certain nombre de victimes pour que les autres survivent. Il y a quelque chose d'ailleurs de très saint, de très saint, pas avec un T, S-A-I-N, de très saint. Dans cette économie de la violence, Caïphe dit à un moment à propos du Christ, il vaut mieux qu'un seul périsse plutôt que toute la communauté. Donc cette économie de la violence, elle a permis probablement aux hommes de survivre, enfin de bâtir leur civilisation. Il n'est pas question de considérer, si vous voulez, que toute l'histoire de l'humanité avant le christianisme que les hommes n'étaient pas, enfin, étaient violents, étaient plus violents que nous sommes, quoi, en quelque sorte, qu'il y a eu une humanité violente et puis qu'ensuite le Christ est venu délivrer un message qui a transformé les hommes en êtres généreux. Et au contraire, c'est un petit peu le contraire parce que la violence révélée est devenue finalement non opérationnelle. Puisque c'est dans la méconnaissance de ce que les hommes faisaient qu'il retrouvait la paix, qu'il retrouvait l'ordre. Et au fond, la révélation de chrétienne a privé les hommes de ce qu'on pourrait appeler les béquilles sacrificielles. On ne peut plus croire qu'un seul est coupable de désordre ou de la violence de tous. Et comme on l'a vu pour ce qu'on a appelé l'Holocauste, la Shoah, c'est des millions de bûchers, c'est des millions de morts. La violence a perdu en quelque sorte son caractère efficace ou économique ou comment dire régulateur, puisque c'était le terme employé. Elle est devenue non pas un moyen de faire la paix, comme elle a toujours plus ou moins voulu être, elle est devenue une espèce de fin en soi. Et on pourra en parler dans la discussion, mais les violences mises en scène par les djihadistes ont l'air, enfin ça ressemble à des sacrifices, mais ça n'a plus aucun caractère régulateur ou réparateur. La violence, finalement, se prend elle-même comme fin. Il n'y a plus. C'est à la fois. c'est à la fois. Comment dire. Oui, c'est pas à la fois. C'est. Le christianisme, ou cette révélation chrétienne, que Girard développe, lit dans tous ses ouvrages, c'est à la fois quelque chose de formidable puisque ça nous ouvre à une vie nouvelle, ça nous fait nous connaître mieux nous-mêmes, ça nous libère d'une certaine façon d'un certain nombre de dépendances, ça nous ouvre à une vraie liberté d'une certaine manière, mais cette liberté, elle est terrible. Donc c'est à la fois merveilleux et à la fois terrible. C'est pourquoi la pensée de Girard, il l'a définie lui-même comme apocalyptique. Elle est apocalyptique aux deux sens du mot. Apocalypse, ça veut dire à la fois révélation, révélation de l'ordre, de ce qui sous-tend les ordres humains, la violence, et c'est en même temps catastrophique, parce que cette violence révélée, ayant perdu en quelque sorte ses moyens de se réguler, devient un problème difficile à résoudre. La façon dont le Christ voulait qu'on résolve ce problème, qu'on a considéré comme absolument irréaliste et pourtant tout à fait réaliste. La façon de résoudre ce problème, d'après le Christ, c'était, étant donné que la violence se perçoit toujours comme légitime représailles, c'est au droit de représailles qu'il faut renoncer et même à ce qui passe, dans bien des cas, pour légitime défense. Puisque la violence est mimétique, puisque personne ne se sent jamais responsable de son premier jaillissement, seul un renoncement inconditionnel peut aboutir au résultat souhaité. Là, c'est Girard qui parle. Et ensuite, il cite l'évangile de Luc. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs prêtent à des pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien attendre de retour. Et Girard dit, mais on dit que c'est totalement, c'est réaliste dans la mesure même où nous sommes devant notre violence sans régulation externe, nous devons la voir en face, la regarder en face, et si elle nous effraie au point de nous paraître mortelle, mortelle pour l'environnement, mortelle, etc., puisque peut-être que la dernière victime émissaire, c'est finalement la nature. Eh bien, le renoncement s'impose. Ben, maintenant, est-ce que l'humanité est capable de renoncer à sa violence? Nul n'en sait rien. Je vous quitte sur ces paroles que j'espère que pas trop inquiétantes, mais si on lit Girard jusqu'au bout, c'était plutôt un pessimiste, hein. Le remède à la violence existe, et il n'est pas sûr que l'humanité. Qui a plutôt considéré ses écritures, ses messages évangéliques, et en particulier les textes apocalyptiques comme des textes sans intérêt, alors que tout y est, y compris l'association dans les textes de l'Apocalypse, il y a en même temps cette association des catastrophes naturelles et des catastrophes humaines. Alors, Girard dit, c'est là-dessus que je m'arrêterai. Ces textes nous révèlent plus nous donne plus le sens de notre époque, le sens de l'histoire, que ne peuvent le faire les philosophies comme celle de Hegel ou de Marx, qui nous promettaient évidemment la raison dans l'histoire, une société sans classe, qui nous promettaient le paradis. Mais peut-être que ces textes qui nous promettent, qui nous promettent pas le paradis, ne sont plus actuels, enfin, sont d'un enseignement plus juste dans l'actualité qui est la nôtre que les optimismes des siècles derniers. Voilà. Pour finir à peu près dans les temps, et je finis beaucoup trop tard, parce
Non, non.
que pensée riche, et je me suis un petit peu attardée sur le mécanisme du bouc émissaire, mais en même temps, on voit bien que la Bible propose une espèce de continuation, naturellement, de continuation de l'esprit religieux, mais en l'inversant totalement. Je crois que Girard emploie cette métaphore de la bête qui a des peaux bien lustrées et qu'on retourne et dont on voit la chair sanguinolente. La religion archaïque, c'est la peau bien lustrée, et les évangiles, c'est la peau retournée. On voit la violence. Et Dieu, par exemple, quand Caïn tue Abel, Dieu n'est pas d'accord. Il dit, le sang de ton frère crie du sol vers moi. Alors que dans la fondation de Rome, quand Romulus tue Rémus, on trouve ça très bien. Donc il y a un renversement total de la religion. Peut-être que c'est pour ça qu'on a dit que enfin, le monothéisme était la religion qui mettait fin à toutes les autres religions. Parce que d'une certaine façon, en effet, elle y a une continuité. Le mot sacrifice montre la continuité. Mais il y a aussi une rupture totale, une inversion totale. La violence était divine, elle est devenue humaine. On sait si on meurt de violence que c'est pas Dieu qui nous punira, c'est nous qui nous punirons nous-mêmes. Avez-vous des questions?
Merci, Madame Orsini.